Chapitre 5.
Couchée dans le lit, Meghan lisait un magazine. Allongée à côté d'elle, Dave regardait la télé, la zapette à la main. Pour un homme, la télécommande, c'est comme un doudou. Il est incapable de regarder la télévision sans en avoir une sous la main, au cas où. Il était 10 heures passées. Jordan dormait déjà. Kaylee, c'était une autre histoire.
« À toi l'honneur !»
dit Dave.
« Où j'y vais, moi ?»
Meghan soupira. « Tu l'as fait 2 soirs de suite ?» Dave sourit, sans quitter l'écran des yeux.
« 3 soirs de suite, mais on va pas compter. »
Elle posa son magazine. Kaylee était censée se coucher à 22 heures tapantes, mais elle ne le faisait jamais toute seule. Il fallait qu'un de ses parents l'y pousse. Meghan se laissa tomber du lit et longea le couloir à pas de loup. Elle aurait pu hurler « Au lit immédiatement !» Mais ça aurait été tout aussi épuisant, et puis elle aurait risqué de réveiller Jordan. Meghan passa la tête dans la chambre. « L'heure d'aller au lit !» Kaylee ne daigna même pas lever le nez de son ordinateur. « Encore 15 minutes, ok ?»« Non, l'heure, c'est l'heure. Il est presque le quart. Jen a besoin d'aide pour ses devoirs !» Meghan haussa un sourcil parental sceptique. « Sur Facebook ?» Un quart d'heure, maman, c'est tout. Mais ce n'était jamais un quart d'heure. Car dans un quart d'heure, la lumière serait toujours allumée, Kaylee serait toujours devant son écran et Meghan devrait se lever de nouveau pour lui dire d'aller au lit. Non, pas une minute de plus. Mais tu veux être punie? C'est quoi le problème, hein? Un quart d'heure! Tout de suite! Pourquoi tu hurles? Tu passes ton temps à me hurler dessus! Etc., etc. Meghan songea à Lorraine, qui n'était pas faite pour avoir des enfants, aux mamans agglutinées dans un coin du Starbucks, au passé qui ne vous lâche jamais, ni le bon, ni le mauvais. On le range dans des boîtes qu'on remise dans un placard, comme ces cartons qu'on entasse chez soi, qu'on garde mais qu'on n'ouvre jamais. Et le jour où la réalité vous rattrape, on va dans le placard et on les déballe. Quand Meghan revint dans la chambre, Dave s'était endormi devant la télévision, la zapette à la main. Il était couché sur le dos, torse nu. Sa poitrine se soulevait dans un léger ronflement. Un instant, Meghan s'arrêta pour l'observer. Il était solidement charpenté, en bonne forme physique, mais les années avaient rajouté des couches. Ses cheveux étaient moins épais qu'avant, ses bajoues étaient plus prononcées, son maintien n'était plus ce qu'il avait été. Il travaillait trop. Tous les jours de la semaine, il se réveillait à 6h30, enfilait un costume-cravate, sauf certains vendredis où tout le monde s'habillait comme des garçons de café, et se rendait à son bureau situé au 6e étage d'un building de Jersey City. Il était avocat, et ses déplacements professionnels lui prenaient beaucoup trop de temps. Il aimait bien son métier, mais il vivait surtout pour les moments passés avec sa famille. Dave aimait entraîner ses enfants, assister aux rencontres sportives, et il avait tendance à prendre leurs performances trop à cœur. Il aimait baratiner les parents dans les gradins, boire une bière avec les vétérans de l'American Legion, jouer au foot avec son équipe de vieux et faire un parcours de golf tôt le matin. « Es-tu heureux ?» Elle ne lui avait jamais posé la question. Lui non plus. Que répondrait-elle du reste ? En ce moment, elle était mal dans sa peau. Elle ne lui avait rien dit. Peut-être qu'il faisait pareil. 16 ans qu'elle dormait avec cet homme, et lui seul. Et elle lui avait menti dès le premier jour. Était-ce important aujourd'hui? La vérité y changerait-elle quelque chose? Il ne savait rien de son passé, et pourtant il la connaissait mieux que quiconque. Meghan s'approcha du lit, lui prit doucement la télécommande, éteignit le poste. Dave remua et se tourna sur le côté. Il avait l'habitude de dormir en chien de fusil. Elle se faufila dans le lit, se colla contre lui. Son corps était tiède. Elle enfouit le nez dans son dos. Elle aimait son odeur. Si elle songeait à son avenir, à la vieillesse, quelque part en Floride ou dans un village de retraités, Meghan savait que ce serait avec cet homme-là. Elle n'imaginait pas sa vie autrement. Elle aimait Dave. Sa place était auprès de lui. Et cependant, était-ce si mal de vouloir plus ? Ou simplement autre chose de temps en temps? C'était mal. La question était « Pourquoi ?» Elle posa la main sur la hanche de son mari. Si elle glissait ses doigts sous la bande élastique, elle savait d'avance comment il réagirait, le petit gémissement dans son sommeil. Elle sourit, mais se retint. Ses pensées la ramenaient à sa visite aux crèmes. Rien que d'y être, de ressentir cette ambiance, c'était déjà extraordinaire. Pourquoi avait-elle rouvert ce placard ? Et, moins abstrait et existentiel, était-il possible que Stuart Green soit de retour ? Non. Enfin, elle n'arrivait pas à l'imaginer. Ou alors, avec le recul, son retour expliquait tout le reste. Soudain, l'excitation se mua en peur. Il y avait eu de bons moments, des moments de grâce, mais aussi des moments terrifiants. Quand on y pense, ces deux-là n'allaient-ils pas de pair ? Ça fait partie du jeu, non ? Stuart Green. Elle croyait ce fantôme-là enterré depuis longtemps. Mais on n'enterre pas un fantôme, hélas. Elle frissonna, enlaça Dave par la taille, se blottit plus près. À sa surprise, il lui prit la main.
« Ça va, chérie ?»«
Oui. » Il y eut un silence, puis il dit
« Je t'aime. »«
Je t'aime aussi. » Meghan se disait que le sommeil ne viendrait jamais, mais elle se trompait. Elle y tomba comme dans un précipice. À 3 heures du matin, quand son portable se mit à vibrer, elle était toujours pelotonnée contre son mari, un bras autour de sa taille. Elle s'éveilla en sursaut, attrapa le téléphone sans hésiter, jeta un coup d'œil sur le numéro entrant, même si c'était inutile. À moitié endormie, Dave lâcha un juron.
« Ne réponds pas. »
Mais Meghan ne s'en sentait pas la force. Elle était déjà en train de s'extraire du lit, de chercher ses chaussons. Elle porta le téléphone à son oreille. « Agnès ?»«
Il est dans ma chambre !»
souffla la vieille femme. « Ça va aller, Agnès, j'arrive. »
« Oh, s'il te plaît, fais vite !»
La terreur dans la voix était manifeste.
« Je crois qu'il va me tuer !»
Broom ne prit pas la peine de sortir sa plaque en pénétrant aux crèmes. Un club pour hommes, doux euphémisme, situé à deux pas et à des années-lumière de la grande promenade d'Atlantic City. Le videur, un vieux de la vieille nommé Larry, le connaissait bien. « Yo, Broom !»« Salut, Larry. »« Affaire ou détente ?» s'enquit Larry. « Affaire. Rudy est là ?»« Ouais, dans son bureau, ouais. » Il était 10 heures du matin, mais une poignée de clients piteux s'attardait dans la salle, avec des danseuses non moins piteuses. Un employé installait le toujours populaire buffet à volonté, nourriture seulement, en mélangeant des plats congelés qui dataient de Dieu sait quand. Dire que ce buffet était le paradis de la salmonelle frisait le pléonasme. Rudy trônait derrière son bureau. Il aurait pu faire de la figuration dans Les Sopranos, sauf que le directeur de casting l'aurait trouvé trop caricatural pour le personnage. C'était un type corpulent qui arborait une chaîne en or assez grosse pour hisser l'ancre d'un paquebot et une bague au petit doigt que ses danseuses auraient pu porter au poignet. Il se leva lourdement.
« Salut, Broom !»«
Que se passe-t-il, Rudy ?»«
Je peux faire quelque chose pour toi. »«
Tu sais qui est Carlton Flynn ?»
« Ah, bien sûr. Un petit frimeur à la noix adepte de la gonflette et du bronzage en cabine. »«
T'es au courant qu'il a disparu ?»«
Il paraît, ouais.
Faut pas que ça t'empêche de dormir, hein ?»«
J'arrête pas de pleurer, »
dit Rudy. « Tu peux me parler de lui ?»«
Les filles disent qu'il a une toute petite bite. »
Rudy alluma un cigare et le pointa sur Broom.
« Les stéroïdes, mon ami, évite. Ça te ratatine les corones. Après, on dirait des raisins secs. »
« J'apprécie le conseil et l'image. Autre chose ?»«
Oui, il a dû fréquenter beaucoup de clubs, »
fit Rudy. « Oui, sûrement. »«
Alors, pourquoi tu viens me casser les pieds ici ?»«
Parce qu'il a disparu, comme Stuart Green. » Rudy ouvrit de grands yeux.
« Et alors ? C'était quoi, il y a 20 ans ?»«
17. »«
Oh, ça fait un bail. Dans une ville comme Atlantic City, c'est une éternité.
Il n'avait pas tort. Ici, on comptait en années de chien. Le temps passait plus vite. Et bien qu'on ne l'ait pas crié sur les toits, Stuart Green, papa gâteau de deux bambins, époux dévoué d'une Sarah atteinte de cancer, ne dédaignait pas le service à la bouteille du crème et la compagnie des effeuilleuses. Il utilisait une carte de crédit séparée et les factures arrivaient à son bureau. Broome avait fini par en parler à Sarah, avec tous les ménagements possibles, et sa réaction l'avait pris au dépourvu.
« Des tas d'hommes mariés vont dans les clubs ?»
avait-elle répondu.
« Et alors ?»«
Vous le saviez ?»«
Oui. »
Elle mentait. Il avait surpris une lueur peinée dans son regard.
« D'ailleurs, ça n'a aucune importance. »
avait-elle ajouté. En un sens, elle avait raison. Le fait qu'un homme aime à se rincer l'œil ou même à s'offrir des plaisirs hors mariage n'avait rien à voir avec l'urgence des recherches à entreprendre. D'un autre côté, à force d'interroger les clients et les employés du crème, Broome s'était forgé une image plutôt troublante et torride du personnage.
« Stuart Green !» répéta Rudy. « J'ai pas entendu ce nom-là depuis des lustres. Quel rapport ?»«
Seulement deux points, Rudy. » Car en vérité, les deux hommes avaient très peu de choses en commun. Stuart Green était marié, travailleur, père de famille. Carlton Flynn était célibataire, dorloté, fils à papa. Primo, ils ont disparu le même jour, quoiqu'à 17 ans d'intervalle. Et secondo, ajouta Broome avec un geste. Il y a cet établissement de prestige. Au cinéma, des types comme Rudy ne coopèrent jamais avec les flics. Dans la vraie vie, ils ne veulent pas d'ennui ni empêcher que des crimes soient résolus.
« Et comment puis-je t'aider ?»
Flynn avait-il une fille attitrée ici ?«
Tu veux dire, comme Stuart avec Cassie ?»
Broome ne dit rien, laissant passer le nuage noir.
« Parce que, comment, aucune de mes filles n'a disparu, si c'est à ça que tu penses ?»
Broome ne disait toujours rien. Stuart Green avait eu une favorite au club. Elle avait aussi disparu cette fameuse nuit. Lorsque les cerveaux du FBI, qui avaient récupéré l'affaire en pensant qu'il s'agissait d'un citoyen respectable, avaient appris ce détail, ils étaient parvenus à une conclusion évidente et universellement admise, Stuart Green avait mis les voiles avec une stripteaseuse. Mais Sarah ne voulait pas en entendre parler, et Broome n'y croyait pas non plus. Green était peut-être un mec pas net qui aimait à s'encanailler, mais de là à abandonner ses mômes et à prendre la tangente, ça ne tenait pas debout. Aucun de ses comptes n'avait été vidé, ni argent, ni biens personnels ne manquaient à l'appel. Pas de valise, rien n'avait été vendu, aucun signe au travail qu'il projetait de s'enfuir. En fait, la carrière de Stuart tournait autour de son bureau minutieusement rangé. Il avait un revenu fixe, un bon job, des amis, des parents et des frères et sœurs qu'il aimait. S'il était parti, tout laissait à penser qu'il s'était décidé sur un coup de tête.
D'accord. Je demanderai si Flynn avait un faible pour une fille en particulier. Quoi d'autre ?
Jusque-là, Broome avait réussi à identifier 10 hommes qui pouvaient correspondre au profil qui l'intéressait. Son ex-femme et coéquipière, Erin Anderson, avait même obtenu les portraits de 3 d'entre eux. La collecte d'informations allait prendre du temps. Il tendit les photos à Rudy. « Tu reconnais un de ces gars ?»«
Un des suspects ?»
Broome fronça les sourcils. « Tu les connais, oui ou non ?»«
Oui, bon, d'accord, désolé. »
Rudy feuilleta les photos.
« Je sais pas, celui-là, il a une tête qui me dit quelque chose. »
Peter Berman, sans emploi, porté disparu un 4 mars, 8 ans plus tôt. D'où le connais-tu ? Haussement d'épaule.
J'ai pas dit que je le connaissais. J'ai dit que je l'avais peut-être déjà vu. Où et quand, j'en sais rien. Si ça se trouve, ça fait plusieurs années.
8 ans, par exemple ?
Oh, je sais pas. Peut-être. Pourquoi ?
Fais circuler les photos. Voici, quelqu'un les reconnaît. Ne dis pas pourquoi on les recherche.
Bah, moi-même, je sais pas pourquoi c'est.
Broom avait vérifié tous les autres cas. Pour l'instant, et il était encore tôt, le seul qui impliquait la disparition d'une femme était naturellement celui de Stuart Green. Son prénom, du temps où elle travaillait ici, était Cassie. Personne ne connaissait son vrai nom. Les agents fédéraux et la plupart des flics étaient partis en courant quand la stripteaseuse était entrée en scène. Les rumeurs circulaient, atteignant le voisinage des Green. Les enfants pouvaient être méchants. Suzy et Brandon allaient se faire chambrer par leurs petits camarades parce que papa s'était fait la belle avec une danseuse exotique. Un seul flic, un flic probablement très obtus, n'y avait pas cru.
« Autre chose ?»
demanda Rudy. Broom secoua la tête, se dirigea vers la porte. Levant les yeux, il vit soudain quelque chose qui le stoppa net.
« Qu'est-ce qu'il y a ?»
fit Rudy. Broom pointa le doigt. « Caméra de surveillance ?»«
Évidemment, au cas où on nous chercherait des embrouilles. Ou bien, tiens, il y a 2 mois, on a eu un gars qui a réglé sa note, $12,000, avec sa carte de crédit. Sa femme l'a vu. Il a prétendu qu'on lui avait volé sa carte et qu'il s'était fait escroquer. Un bobard, quoi. Il a dit qu'il n'était jamais venu ici. Il a réclamé son argent. »
Broom sourit. « Et alors ?»
Je lui ai envoyé l'image d'un double lap dance en précisant que je serais heureux de faire parvenir la vidéo complète à sa femme. Puis je lui ai suggéré d'ajouter un pourboire vu que les filles s'étaient décarcassées ce soir-là.
Et tu effaces tes bandes au bout de combien de temps ?
Mes bandes ? Tu crois qu'on est encore au 20e siècle ou quoi ? Il n'y a plus de bandes. Tout est numérique maintenant. J'ai ici les 2 dernières années au complet.
Tu peux me filer ce que tu as en date du 18 février, cette année et l'année passée ? Ray se rendit dans un FedEx Kinko, spécialiste de l'impression numérique, et à partir de leur ordinateur, imprima la photo de Carlton Flynn dans les Pine Barrens. Il savait que s'il envoyait directement le JPEG, le fichier pouvait conduire les enquêteurs à l'appareil d'origine. Il prit donc la photo imprimée et s'en fut faire une photocopie couleur au Staples sur la route 30. Il tenait le tout par les bords pour être sûr de ne pas laisser d'empreintes. Il se servit d'une éponge pour enveloppe, d'un simple bic bleu pour rédiger l'adresse, tout en majuscules. Police d'Atlantic City. Il reprit la voiture et s'arrêta devant une boîte aux lettres dans une rue tranquille d'Abscon. L'image du sang revint. Sa démarche n'était-elle pas trop risquée ? Et si ça lui retombait dessus ? Il ne voyait pas comment, et puis, après tout ce temps, le problème n'était même pas là. Il n'avait pas le choix. Quoi qu'on exhume, quels que soient les désagréments qui puissent en résulter pour lui, qu'avait-il à perdre au fond ? Ray préférait ne pas y penser. Il jeta l'enveloppe dans la boîte et redémarra.